paroles d'un Aitachi avec Henri Fourmi.
Chers amis de Radio La Pourdie, bonjour. Dans le tsunami permanent des émotions qui nous traversent, la place et le rôle du cœur semblent souvent oubliés, donnant à la fonction rationnelle une importance usurpée et une impression de liberté personnelle malheureusement illusoire. En effet, nous savons bien que, comme le disait l'apôtre Paul, nous faisons le mal que l'on ne veut pas et nous ne faisons pas le bien que l'on veut faire. La réflexion personnelle, distante et équilibrée, semble ainsi disqualifiée par une force qui nous dépasse. Où est donc passée la cordialité, débordement de la bonté de notre cœur? Comment notre sens social, notre éducation et notre générosité se trouvent-ils vidés de leurs attributs essentiels qui permettent l'estime de soi et la confiance dans les relations interpersonnelles? Pourtant, ces qualités se révèlent indispensables à toute vie sociale harmonieuse, se transcendant par la compassion en fraternité effective, chemin de communion. Nous sommes confrontés à une dualité intime, très douloureuse, et dont l'origine ou l'explication divise autant les historiens, les sociologues, les philosophes que les psychologues. De même, la plupart des mythologies, dont la diversité a cependant engendré de remarquables civilisations et façonné l'histoire de l'humanité, accusent une certaine imperfection de notre nature humaine. Une fatalité semble être le dénominateur commun de ces modes de pensée et condamne l'être humain à cette impossibilité native de bonheur qui se traduit essentiellement par une opposition entre la matière et l'esprit, avec une déchéance de l'esprit dans une prison corporelle dont la mort seule permettra de s'évader. Parmi les philosophies, sagesse et religion, unique phénomène chargé d'espérance, le message judéo-chrétien offre à l'homme non seulement une dignité de créature à dimension éternelle, mais en outre lui promet une béatitude dont il bénéficie par grâce et miséricorde du Créateur de l'univers, visible et invisible, par un miracle d'amour gratuit. Cette perspective est tellement incroyable à l'intelligence rationnelle qu'il n'y a que la foi pour recevoir la force de croire, tandis que la réflexion demeure impuissante pour convaincre, habiter, animer. Indépendamment d'une certaine manipulation et propagande usant de la communication globalisée que permet la technologie du XXIe siècle, notre volonté, nos actes et notre lucidité se trouvent régulièrement pris en défaut. L'expression de notre véritable liberté, soumise à des passions qui la réduisent momentanément, est faussée, dévoyée, dénaturée quand nous nous trompons sur des priorités normalement évidentes. Paradoxalement et positivement, une importante littérature s'est développée pour informer et expliquer et éduquer les divers publics, soit au niveau personnel, soit familial ou professionnel, sur la gestion des émotions, l'action individuelle ou de groupe pour les surmonter et les maîtriser. Mais le constat reste le même dès lors que l'homme se croit l'unique maître du monde, rationnellement, mais privé de la dimension du cœur. En fait, la notion de cœur reste mystérieuse et une grande confusion complique l'interprétation de ce terme selon qu'il s'agit d'anatomie, de philosophie, de psychologie ou de spiritualité, notamment dans la diversité des religions. À ce titre, la définition biblique explique que le cœur, physique et métaphysique dans une unité charnelle et spirituelle, est le centre de la vie, de la volonté, de la personnalité, de la liberté, dans un sens biologique autant que moral ou religieux. La démarche philosophique rejoint cette conception du cœur, la distinguant de la sensibilité et de l'émotion qui conditionnent la rationalité conceptuelle et la fonction intellectuelle et imaginaire assurée par le cerveau. Enrichie par l'expérience, la connaissance et la démarche scientifique rigoureuse, nombreuses voix témoignent d'une volonté inconsciente et impérieuse qui fait agir malgré la raison. À la suite des génies de la culture universelle comme Pascal, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas, ou Goethe qui s'interroge, le noyau de la nature n'est-il pas dans le cœur des hommes? De nombreux philosophes, comme Schopenhauer par exemple, affirment que le cœur, lien entre microcosme individuel et macrocosme de la nature et de l'univers vivant, est nécessairement éternel. Plus audacieux encore, ils associent le cœur à la notion de bonté. La bonté du cœur consiste en un profond sentiment de compassion universelle pour tout ce qui vit, mais en premier lieu pour l'homme. Toutefois, pour ce philosophe, deux comportements opposés se distinguent. Les personnes qui ont naturellement bon cœur et celles qui n'ont ni compassion ni sens de la justice. Le cœur charnel serait le lieu de cette distinction. Organiquement soumis à des formes de détermination, il se trouve à la source d'impulsions inconscientes et profondes, constitutives de sa structure et associées à sa fonction. En clair, On peut être méchant ou bon, c'est une fatalité. Une telle conception de l'homme apparaît tragique dans la condamnation d'une certaine espérance dans la nature de l'homme, dont Rousseau, philanthrope à ses heures, disait qu'il est né bon, mais c'est la société qui le déprave. C'est aussi la négation de la liberté humaine. La conscience rationnelle n'ayant alors qu'une influence faible ou aléatoire sur les décisions et les actions volontaires d'une humanité soumise à des discriminations liées à on ne sait quel hasard. Notre expérience intime témoigne d'une véritable hégémonie de la volonté comme expression du cœur perturbé par l'émotivité, la sensibilité et par les passions qui l'assaillent et le font parfois s'emballer, au risque de susciter des actes contraires à la raison, avec souvent de graves et funestes conséquences. Cette volonté primitive et sauvage, non maîtrisée par la raison, agit en souveraine sur la rationalité indépendante des affects tant extérieurs qu'intérieurs. Mais cette volonté, génétiquement transmise, notamment par l'amour dans son expression sexuelle, agit comme une nécessité naturelle, non systématiquement rationnelle. Il s'agit de la pérennisation de l'espèce, donc d'une contrainte métaphysique s'exprimant dans l'univers du vivant. Il importe ainsi de souligner que cette fonction cardiaque, indispensable à la survie de l'individu, détermine de manière toujours inconsciente un instinct de conservation de la vie, héritage originel d'une mission inscrite dans toute espèce vivante. Dans l'expression de cette volonté, sauf exception, le cœur domine la raison. Dans ce cas, le conflit intrapersonnel peut devenir une guerre intime aux conséquences imprévisibles, mais parfois désastreuses pour l'organisme et son fonctionnement harmonieux, pouvant entraîner une dynamique d'autodestruction. Pauvre cœur, responsable inconscient et innocent de l'inconstance de notre nature. Dans la société d'aujourd'hui, en particulier dans les pays où un certain niveau de vie et une culture occidentale prévalent, le cœur est la cible d'une entreprise de mainmise par des trahisons de civilisation, des reniements des transmissions essentielles, des idéologies déstructurant et détruisant l'humain dans son cœur. En l'opposant aux vérités que sa raison lui permet d'atteindre, dénaturant une harmonie originelle, perpétuant la division entre le cœur et l'esprit, à l'origine de toutes les souffrances depuis les temps et les plus anciens, avec la mort en prime, c'est la mort de l'homme que l'on vise à travers le cœur. Une remise en ordre vitale est donc historiquement indispensable pour éclairer, réconcilier et unifier l'esprit et le cœur humain. C'est le don de et la grâce de la révélation judéo-chrétienne qui emporte le message, la bonne nouvelle. Aujourd'hui, l'Église est en première ligne pour dénoncer des mensonges et les attaques contre la beauté et la dignité de l'humanité, malgré ses fragilités, ses erreurs et ses limites. Contre les hérésies modernes, qui refusent de rendre grâce au Créateur pour la beauté et la bonté de la création, et de sa créature, portant témoignage du message initial, l'homme est créé à l'image de Dieu, en précisant « homme et femme, il les créa », l'Église s'élève courageusement, avec un témoignage sanglant du martyr depuis ses origines. Elle combat le bon combat, pour s'opposer aux multiples plans du diviseur qui veut détruire l'homme, de l'enfant à naître, à la personne rejetée aux périphéries de la société, dans la solitude, l'indifférence et l'abandon. L'Église apporte son message d'espérance, celle qui ne déçoit pas, car elle seule permet d'unifier le cœur, l'âme et l'esprit dans une communion d'amour de soi, réconciliée avec son Créateur, avec son prochain, avec la nature entière. Pour les catholiques, le cœur de l'homme est la source même de sa personnalité consciente, intelligente et libre, le lieu de ses choix décisifs. Dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, le cœur est le centre de l'être, là où l'homme s'ouvre ou se ferme à Dieu. C'est le lieu où l'homme rencontre Dieu. Dans Éphésiens 3, l'apôtre nous dit que le Christ habite en vos cœurs par la foi. Restez enracinés dans l'amour, établis dans l'amour. Le premier commandement de Dieu, les pharisiens, l'un d'eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Maître dans la loi, quel est le plus grand commandement? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi, ainsi que les prophètes, nous dit Matthieu en 22. Ceci nous fait comprendre que l'amour de Dieu engage toute la personne. Le cœur et la raison entrent en harmonie quand l'homme accueille sa dignité d'être promis aux destinées béatifiques. dont la sainteté est le signe, le chemin et le but. Mais ce chemin compte de nombreux obstacles, en particulier parce que notre cœur reste sensible à des peurs venant du fond des âges, qui lui font perdre de vue sa grandeur, celle dont Pascal disait « l'homme dépasse infiniment l'homme ». Au milieu de nos limites, des souffrances de notre nature et en dépit de nos erreurs, ne nous laissons pas tenter par la désespérance. Le cœur transpercé, choisi par le pape Léon XIV, nous invite à vivre notre quotidien avec la foi. Le message de Marie, en ce mois de mai, vient nous confirmer que l'espérance ne déçoit pas. Et c'est par notre charité que le chemin devient témoignage et acte missionnaire. Merci de votre attention, bon dimanche, à la prochaine fois.